France Culture.
Et les midi deuxième partie, c'est parti. À 13h, je recevrai le compositeur Philippe Leroux et la metteuse en scène Célie Pote. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors même si nous n'avons vu aucun épisode ou même si nous avons abandonné leurs histoires après nos 15 ans, nous avons tous l'image de cette famille américaine, Homer, Marge et leurs enfants, à la peau jaune et aux yeux exorbités comme des balles de golf. Apparus à la télévision en 1989, les Simpsons sont toujours diffusés aujourd'hui, un record de longévité dans l'histoire des séries. Car si les personnages ne vieillissent pas, l'écriture, elle, est toujours aussi prompte à saisir l'air de son temps. Romain Nigita, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique de série et vous venez de faire paraître aux éditions Playlist Society un essai qui s'intitule « Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel ». Alors, Les Simpsons, c'est l'une des plus anciennes séries américaines toujours diffusée, près de 40 saisons. Votre parti pris, c'est de prendre Les Simpsons au sérieux. À quel moment cette série passe, selon vous, de la parodie pop à une vraie œuvre qui fabrique une vision de l'Amérique ?
Pour moi, cette vision de l'Amérique, elle est là dès le début, puisque l'objectif du créateur de la série, Matt Groening, qui a imaginé ces personnages, dès le départ, c'est de livrer une satire de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il faisait déjà dans son œuvre précédente, qui était un comic strip qui s'appelait Life in Hell, où il parlait grosso modo de sa jeunesse d'Américain, où il parlait du chômage, de la politique, du sida, etc. Et là, quand il crée à la demande de la chaîne Fox cette série animée, il s'inspire de sa propre famille, puisque tous les personnages portent les prénoms de ses parents, de ses sœurs, hormis lui, pour lequel il n'a pas gardé le nom de Matt, il s'est juste rebaptisé Bart. Mais voilà, dès le départ, il livre une satire et une vision de la famille américaine, celle qu'il a connue étant enfant dans les années 60, et puis ce qu'elle est devenue à la fin des années 80-90. Donc dès le départ, dès sa conception, les Simpsons sont là pour livrer une vision sarcastique de la société américaine. Et là où c'est fascinant, et c'est ce que j'ai voulu développer dans ce livre, c'est que cette satire n'est pas restée figée dans le temps. Elle a continué à s'adapter aux évolutions de la société américaine et des sociétés occidentales au sens large.
Oui, parce que ça, c'est en effet, c'est très troublant, parce que les personnages des Simpsons, eux, ils ne vieillissent pas, et pourtant, l'époque change. Hein, en 40 ans, on n'est pas dans le même monde. Et pourtant, la série reste toujours d'actualité. C'est quand même un peu le mystère de cette série.
Mais c'est exactement ce paradoxe tel que je l'appelle dans ce livre. En effet, les personnages ne vieillissent pas. Ils ont toujours le même âge. Bart est toujours dans la même classe et n'a pas grandi. Homer est toujours au même poste dans la centrale nucléaire. Et pourtant, on voit les technologies qui évoluent. Évidemment, au démarrage de la série en 1989, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Et depuis, c'est arrivé. Et on en a vu dans la série la conséquence sur la vie des personnages. Et c'est justement ça qui est passionnant. C'est que c'est une série qui reste intemporelle dans le sens où on peut aujourd'hui revoir les premiers épisodes, ceux de 1989, et toujours y trouver des choses pertinentes. Ça raconte toujours des choses sur la vie de famille, sur le fait d'être confronté à des hommes politiques pas toujours très honnêtes ou les problèmes d'environnement. Et pour autant, on a des nouvelles problématiques qui apparaissent dans des épisodes récents. Les Simpsons sont confrontés à l'intelligence artificielle ou par exemple au mouvement Defund the Police aux États-Unis. Donc c'est ce mélange d'actualité et d'intemporalité qui fait qu'on peut toujours continuer à regarder Les Simpsons, on peut toujours comprendre la série même si on ne l'a pas suivie depuis très longtemps et on peut simultanément y découvrir des nouvelles choses.
Alors, on l'a dit, hein, Les Simpsons, c'est une série, mais c'est aussi un phénomène qui dépasse largement la série. Je crois que même ceux qui n'ont jamais vu un épisode voient à quel type de personnage on se réfère. Hein. Peut-être que le jaune, d'ailleurs, des personnages a beaucoup joué dans cet élément de reconnaissance pendant des décennies. Mais est-ce que vous diriez que le phénomène Simpson a été le même aux États-Unis au moment de la diffusion et en France quand les épisodes ont été diffusés des années après parfois ?
En France, on a découvert la série un an après son démarrage aux États-Unis, lorsqu'elle était d'abord diffusée sur Canal+. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu un vrai phénomène, y compris politique. Dans les écoles primaires, au tout début des années 90, certaines écoles avaient interdit aux élèves de porter des t-shirts avec Bart Simpson, parce que sur ces t-shirts, souvent, il y avait des slogans un petit peu qu'aujourd'hui, on trouverait un peu inoffensifs, mais certains des slogans, c'était par exemple « Je suis un cancre, secret, j'en suis fier. Ben voilà, dans certaines écoles, c'était interdit. Et puis, il y a eu même, comment dire, une interaction avec la politique aux États-Unis, puisque George Bush, père, qui à l'époque faisait campagne pour tenter d'être élire pour un second mandat, a pris les Simpsons comme contre-exemple. Et selon lui, il ne fallait pas que la famille américaine ressemble aux Simpsons, mais ressemble plutôt à une autre série qui s'appelait Les Walton, qui est une série un peu du genre La Petite Maison dans la Prairie, mais qu'on connaît moins en France. Et voilà, il disait dans ses discours, officiellement, je veux que les Américains ressemblent plus aux Walton qu'aux Simpson. Et les Simpson lui ont répondu dans la série. Donc il y a vraiment eu le fait de se renvoyer la balle comme ça avec de véritables hommes politiques. Donc c'est vrai qu'en France, avec le décalage, on n'a pas forcément perçu ça, mais il y a malgré tout eu un véritable phénomène, comme vous le disiez. Tout le monde, y compris en France, sait au moins ce que sont les Simpsons, a entendu parler d'Homer. Le film qui est sorti dans les salles en 2007 a fait un carton aussi en France. La série était multidiffusée sur des chaînes de la TNT. Il y a du merchandising, il y a des partenariats avec des enseignes de fast-food. Donc les Simpsons ont fini par devenir un phénomène non seulement américain, mais mondial.
Alors c'est une série qui est toujours en cours, hein, je l'ai dit, on peut toujours visionner, il y a toujours des épisodes, hein, je crois qu'il y a encore une série de commandées d'ailleurs. Est-ce que pour vous, ça n'est pas difficile d'analyser une œuvre qui n'est pas encore finie ?
Alors, c'est moins difficile d'analyser une œuvre qui n'est pas finie dans le cas d'une série comme Les Simpsons, dont les épisodes sont bouclés, que ça pourrait l'être pour une série feuilletonnante avec un grand mystère, des séries comme on a pu connaître avec Lost, Game of Thrones, ou actuellement des séries comme Severance, des séries dans lesquelles, voilà, si on n'a pas vu la conclusion de l'histoire, c'est compliqué d'en tirer une analyse. L'avantage d'une série comme Les Simpsons, mais comme ça a souvent été le cas dans beaucoup de séries avant l'avènement des chaînes du câble ou des plateformes, c'est que chaque épisode raconte une histoire qui se termine, un début, un milieu, une fin en 20 minutes, comme dans beaucoup de séries policières, par exemple. Donc ça n'est pas tellement un souci pour l'analyse, puisqu'il y a on ne se demande pas ce que vont devenir un jour ou l'autre Bart ou Homer. Il n'y a pas de questionnement à ce niveau-là. Ensuite, le succès phénoménal des Simpsons et le format d'animation fait que, en effet, il n'y a pas de fin en vue. L'année dernière, la série a été renouvelée pour 4 saisons supplémentaires. Donc, on sait qu'elle ira au minimum jusqu'à la saison 40 et ça continuera peut-être plus tard. Donc, c'est vrai que moi, je me suis dit, attendre que les Simpsons se terminent pour pouvoir en faire un livre, je vais sûrement devoir attendre encore très longtemps. Donc, ça serait dommage de ne pas faire le livre maintenant.
Peut-être une dernière question, Romain Nijda. Est-ce que votre livre peut se lire comme un guide de visionnage? Est-ce qu'on peut, grâce à ce livre, savoir quels épisodes on aurait peut-être ratés et qu'il faut absolument voir?
En effet, je pense que mon livre peut servir un peu de guide de rattrapage pour les personnes qui auraient peut-être lâché les Simpsons depuis longtemps et qui auraient un peu peur face à la masse d'épisodes disponibles, hein, quasiment 800 à ce jour. Donc c'est vrai que j'ai essayé de pointer dans toutes les saisons, que ce soit les plus anciennes ou les plus récentes, des épisodes qui sont les plus parlants dans chacune des thématiques, que ce soit la politique, l'environnement, la société de consommation, l'alimentation, la médecine. Donc dans tous ces thèmes-là, j'ai cité plusieurs épisodes, je donne les références, la saison, le numéro de l'épisode. Donc en effet, si vous voulez vous remettre aux Simpsons, bah moi je peux vous conseiller en effet de feuilleter mon livre.
Eh bien merci beaucoup, votre livre, il s'appelle Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel, il vient de paraître chez Playlist Society. Merci beaucoup Romain Nijda.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, alors que commence le festival du documentaire de Biarritz, le secteur livre ses inquiétudes dans une tribune.
Oui, signée par les 7 principales organisations qui régissent la profession, cette tribune liste l'ensemble des sujets qui fragilisent aujourd'hui la production de documentaires en France. En tête des inquiétudes, la baisse de budget de 80 millions d'euros subie par France Télévisions en 2026, qui va fortement réduire la création de nouveaux programmes documentaires. À cela s'ajoutent les nombreuses attaques politiques contre le service public et le CNC, le manque de programmation de documentaires sur les chaînes des groupes privés tels que TF1 ou M6, ou encore le peu de diversité thématique dans les programmes diffusés par les plateformes de streaming centrés principalement sur les faits divers ou le sport, autant d'éléments qui laissent de moins en moins de place à la production de documentaires et qui, selon les signataires, fragilisent la démocratie.
Et pour finir, Marie, le label Capitale Française de la Culture ne sera pas décerné cette année.
Créé en 2019 par le ministère de la Culture, ce label désigne une ville de taille moyenne qui promeut la transmission culturelle et artistique et lui offre une dotation d'1 million d'euros décernée tous les 2 ans depuis 2022. Le label n'a été remis à l'instant qu'à Villeurbanne puis à Montbéliard. On attendait donc logiquement une troisième capitale pour l'année 2026, mais aucun appel à candidature n'a été lancé par le ministère qui a par ailleurs supprimé la périodicité bisannuelle du label. Il n'y aura donc pas de capitale française cette année et aucune information n'a été donnée sur la poursuite du label dans les années à venir.
À suivre. Merci beaucoup Marie.
Merci, à demain.
On se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.